Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Salut, c'est Clémence. Vous savez qu'on a un podcast sur les séries télé ? Ça s'appelle We Love Series et ça sort tous les mardis. On y parle de séries récentes ou de séries cultes, une série à la fois. Et comme on est très bavard, on y consacre chaque fois plusieurs épisodes. Vous êtes fan de Game of Thrones, de The Office, de Kaamelott ou encore des Simpsons ? Notez bien, We Love Series, c'est un épisode tous les mardis. Disponible sur Deezer, Spotify, YouTube et toutes les bonnes applis de podcast.
Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Julien Charpentier.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Je suis Stéphane Moïsakis et je suis avec mon ami Julien Charpentier. Salut Julien.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Pour parler, puisque je suis avec toi, un petit film des années 90, n'est-ce pas ?
C'est vrai que ça
ressemble. C'est ta période préférée.
Ouais.
Je pense qu'on peut le dire comme ça. Qu'est-ce qu'on a fait ? J'ai dans les années 90, on a fait Hard Rain. Donc, Puits d'enfer.
On a fait à peu près la moitié des films que j'ai fait avec toi.
Voilà, si c'est ça, pas le plus Fugitif.
Ouais, Ronin.
Terminator 3, c'est en 2003, ça marche pas.
Non, ça marche pas.
Voilà. Donc, t'es mon monsieur années 90, je pense qu'on peut le dire comme ça. Voilà.
Y a pas que moi.
Non, y a pas que
Julien
toi.
Julien a fait des très bons épisodes sur Speed et Waterworld.
Tout à fait, France. Julien Dupuis, mais que t'aurais pu faire aussi.
C'est vrai.
Voilà. Donc, Monsieur années 90, pour parler d'un film complètement oublié des années 90, il faut quand même être honnête, hein, L'Enjeu, le titre français ou combien générique de, comment dire, Desperate Measure.
Titre anglais ou combien générique, parce que, bon, des machins avec Desperate Measure, Extreme Measure, il y en a eu plein aussi.
Exactement, et surtout à l'époque en plus, parce que même là, il y avait comment ça s'appelait ce film avec Gene Hackman et...
Mesure d'urgence, Extreme Measure.
Extreme Measure, voilà, c'est ça. Avec, c'est quoi, c'est du Michael Apted, ça, au moins
C'est une bonne question. Ouais, c'est
John Avnet ou un truc comme ça.
Bref. Ça doit être Apted.
Ouais, que j'avais vu en salle aussi.
Désolé.
Et ouais, bah à l'époque, il y avait 5 films qui sortaient par semaine au lieu de 15, alors forcément, on avait le temps. L'Enjeu. Donc avec Andy Garcia et Michael Keaton, plutôt une jolie affiche, tu vois. On va un petit peu en parler, mais c'est un thriller bien des années 90, j'ai envie de dire. Comment tu nous le pitches ?
Bah écoute, pour le coup, on est vraiment sur du pitch de série B absolue définitive.
Et c'est évidemment... bien assumé, je pense, comme
ah,
tel.
Oui, c'est dit,
pour le
façon,
coup, par Barbet Schroeder.
Par Barbet Schroeder et par nous, puisqu'il n'y aura jamais de péjoration de notre part quand on parle de série B. Ouais. Donc le pitch, il est vraiment ultra simple. C'est un flic dont le fils a une leucémie et donc qui, pour survivre, a besoin d'une transplantation de moelle épinière. Le seul problème, c'est qu'il trouve un seul donneur, et le donneur en question est un criminel multirécidiviste joué par un Michael Keaton tout en nuance, absolument magnifique, et donc ben, il va lui demander s'il peut le faire, et Michael Keaton va évidemment accepter, avec derrière l'idée de bien pouvoir se faire la belle.
Putain, quel pitch mais hyper précis, quoi. Non mais c'est vrai, c'est exactement ça. Si ce n'est que moi, il y a des moments où tu comprends pas tout ce qui se passe dans le film. Moi, je me disais, mais à un moment donné, mais il pouvait pas s'échapper là, déjà au bout de 40 minutes de film, en fait, tu te dis, bah non, en fait, apparemment, il pouvait pas.
Déjà, il pouvait pas parce que 40 minutes, c'est pas assez pour un film.
Voilà. Mais alors, Michael Keaton, tout en nuance, moi, j'ai envie de préciser quand même un truc. C'est-à-dire que, en fait, on est dans les années 90. Il a en tête de jouer un grand méchant.
Mm-hmm.
Et donc, en fait, les grands méchants des années 90, c'est qui ? C'est Hannibal Lecter et Max Kelly, quoi. Donc, tout bêtement, comment dire ? Max Kelly.
Les nerfs à vif.
D'accord, ok, merci à la technique parce que je l'avais pas du tout.
À la technique, les nerfs à vif, Max Kelly. Bah oui, bah attends, je suis désolé, le premier plan où tu vois Michael Keaton, il est en train de faire des comment t'appelles ça, de soulever
ce qui pourrait être de la fonte, mais qui est en fait des sacs d'eau. Mais
voilà, c'est ça, dans son truc, torse poil, en train de suer, là, comme De Niro dans les nerfs à vif, quoi.
Non, c'est un film que j'ai totalement oublié, les nerfs à vif, je suis désolé.
Quoi ?
Ouais, bah, je suis désolé.
C'est un film des années 90.
Ah bah, je les aime pas tous. Hein.
Ah bah, ouais, bah dis donc, attends, entre ça et, je sais pas, Plus d'enfer. Bon bref. Non, ah, monsieur, c'est plutôt sympathique. Plus d'enfer, on l'a dit. Mais donc ouais, donc voilà. Donc en fait, c'est entre Hannibal Lecter. En gros, il joue un serial killer. Mais comme c'est Michael Keaton, ils le disent pas tout à fait ouvertement.
C'est pas vraiment ça. C'est plutôt un multi-récidiviste qui a aucun problème à buter.
Extrêmement intelligent.
Évidemment.
Puisqu'il joue aux échecs avec lui-même. Sur sa table de chevet, on le voit.
Il dit qu'il a besoin de Kasparov ou de Deep Blue, qui à l'époque était un ordinateur qui avait battu Kasparov.
Voilà, c'est ça. Donc parce que ouais, il est extrêmement intelligent. Et effectivement, c'est Michael Keaton qui a décidé de. C'est en mode Beetlejuice, quoi. Je sais pas. C'est le mec qui part en cacahuète. Mais c'est. Enfin, pour moi, c'est marrant. Alors, on parle souvent en fait. Et d'ailleurs, moi, on m'a déjà posé la question. On m'a dit, mais est-ce que le fait de revoir des films des années 90, en fait, est-ce que c'est pas, ça les rend pas meilleurs par rapport à ce qui se passe actuellement dans le cinéma? Et, enfin, moi, je pense pas, c'est pas tout à fait vrai. D'ailleurs, en fait, dans mon esprit, Desperate Measures, l'enjeu, donc, c'était quand même un peu un meilleur film que ça. En fait, là, je l'ai revu et je me suis dit, putain, il y a quand même des grosses, grosses ficelles dans ce film. Alors, c'est plutôt sympa à suivre, hein, ça va, c'est pas non plus désagréable, quoi. Mais, mais le vrai truc, la vraie raison, à mon sens, hein, c'est que Michael Keaton, il fait n'importe quoi.
Bah, voilà, pour répondre à ta question, est-ce que l'état compliqué du cinéma actuel rend les films des années 90 meilleurs? Toi, tu penses que non. Moi, j'ai plutôt tendance à trouver que des films que je trouvais très moyens dans les années 90, quand je les revois aujourd'hui, je vois, ça passe. En revanche, ça ne rend pas les films meilleurs. C'est juste que je pense que nos critères ont un peu baissé à force de voir des trucs qui sont pas très très bons. Et en effet, sur l'enjeu, j'aime bien le film, hein, c'est sympa. C'est un argument de série D, mais ça va pas très loin non plus.
Non, et d'ailleurs, on aurait pu traiter parce que pour le coup, en fait, Barbet Schroeder, c'est un réalisateur qui a fait quand même quelques films aux États-Unis. Hein. On aurait pu traiter par exemple Kiss of Death.
Ouais, mais
alors... le remake de Kiss of Death, hein, qui était plutôt sympa, en fait.
C'est d'ailleurs.
Qui est moins action.
Qui est beaucoup moins action, mais bon, qui est un polar à la limite qu'on pourrait rester dans Stéroïdes sans que ce soit choquant. Ouais. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a là deux. Tenancier, Barbet Schroeder, c'est quand même effectivement, il y a eu Mr. Von Bülow, celui que tu viens de citer, pardon, j'ai un trou. T'as un trou aussi, non, c'est bien, c'est malin. Qui sauve Death, il y a eu l'enjeu qui était, il y a eu Jeune femme partage appartement, donc c'était un tenancier du cinéma des années 90, il avait pignon sur rue, et puis de l'autre,
c'est
on avait.
C'est un documentariste à la base, hein, faut le préciser, hein, c'est quelqu'un qui vient quand même aussi du cinéma.
Et qui a eu une carrière, extrêmement hétéroclite. Il a fait un film en Colombie, La Vierge des Tueurs. C'est peut-être pas en Colombie, mais enfin, c'est dans un pays d'Amérique du Sud ou d'Amérique centrale. Et de l'autre côté, on avait Michael Keaton, qui a toujours été un acteur tout en nuance, ça c'est connu.
Moi j'adore Michael Keaton.
Ah, j'adore Michael Keaton aussi, mais enfin bon, tu vas pas voir Michael Keaton si t'espères voir une performance en nuance. C'est plutôt en général quelqu'un qui va en faire beaucoup. Qui va souvent soit faire des performances et qui les réussit très très bien, parce que par contre dans son carré, pour moi c'est l'un des plus doués. Mais c'était quelqu'un qui sortait donc c'était devenu une superstar avec Batman, une star avec Beetlejuice je pense, et une superstar avec Batman. Et quand on arrive seulement 10 ans après Batman, même pas, bah il fait un film qui est globalement une petite série B, hein. Et je trouve ça assez étonnant.
Ouais, alors il faut peut-être si on doit resituer un petit peu le cinéma aujourd'hui, en fait, il se fait sur Netflix ou il se fait sur tous ces trucs-là, et ce genre de films-là, en fait, ils se font sur Netflix, tu vois. Oui. C'est plus du tout des films qui sortent en salle, mais à l'époque, en fait, les studios, il y avait on va dire, pour utiliser un langage de jeux vidéo, il y avait les AAA, on va dire les gros blockbusters machin avec des vrais stars du genre, tu vois. Le blockbuster n'est pas un genre, malgré ce que les gens disent, quoi, mais en tout cas, en fait, du cinéma d'action ou ce genre de choses, tu vois, en tout cas, ce qui cartonnait à l'époque, ce qui était en tendance pour qu'on claque 150 patates dedans, quoi. Et t'avais des acteurs confirmés qui pouvaient, en fait, être dans le double A, on va dire, dans la série B de luxe. Et en gros, pour prendre un film qui date à peu près de la même époque, on va dire que tu pouvais avoir un Pierce Brosnan qui devenait d'un seul coup un acteur de série A, en fait, parce que il était James Bond à cette époque-là, qui se retrouvait dans le pic de Dante. Et c'est un film de série A.
Ouais.
Voilà, parce que c'est un gros budget, quoi. Par exemple, un Ray Liotta qui se retrouvait dans Turbulence à 30 000 pieds, si tu veux, qui est une toute petite série B, mais qui sortait en salle. C'est-à-dire, c'était pas un produit vidéo, c'était pas des trucs. Voilà, donc c'est totalement une autre époque, parce que ces films-là, en fait, littéralement, ils sont soit en vidéo club, soit sur Netflix maintenant. Enfin, vidéo club, ça n'existe plus, mais sur Netflix, quoi. Donc, du coup, c'est vraiment des films de streaming, de séries, génériques et tout ça, etc. Chez nous, ça sortait en salle.
Ouais, ça sortait en salle. Ce qui est intéressant, son enjeu, c'est que, alors qu'il a tous les oripeaux de la série B, il a un argumentaire de série B, c'est un petit film qui est pas désagréable à suivre, mais par contre il a coûté bonbon le coco, hein.
Oui, bah il a coûté bonbon parce que en fait d'un seul coup c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que t'as quand même deux acteurs qui sont des acteurs en fait qui étaient un petit peu tombés en désuétude à ce moment-là, il faut le dire aussi, on est en 97-98 parce que bah par exemple Michael Keaton il a le dernier carton qu'il avait eu à ce moment-là, c'était Batman Returns, et encore c'était un carton entre guillemets controversé parce que le film était controversé, mais surtout il a décidé de ne plus être Batman pour Schumacher. Donc là déjà c'est un move en fait pour les c'est un choix de carrière on va dire si tu veux qui est généralement pas très bien vu non mais par les studios américains. Il a fait quelques films sur la base de Star Power qui était le journal par exemple de Ron Howard ou My Life, tu vois, enfin des trucs comme ça, etc., qui se sont plantés. Le plantos vraiment, ça a été Multiplicity, quoi, qui est un super film. Hein,
qui est un super film. C'est totalement oublié pour ceux qui connaîtraient pas. Il y a comme tu l'as dit, Mes doubles, ma femme et moi, film de Harold Ramis, qui est le film qui suit directement Un jour sans fin, qui est le film qui a marqué de Harold Ramis. Et du coup, l'ombre est tellement envahissante que Multiplicity a été totalement oublié, échec chez nous avec son titre pourri Mes doubles, ma femme et moi, alors que c'est vraiment Michael Keaton déjà dans une performance incroyable, Andy McDowell-esque, donc parfaite, mais peut-être que je suis un peu
biaisé.
Film totalement oublié, c'est bien dommage. Mais oui, là on est sur un budget quand même qui est, alors suivant les sources, parce que j'ai regardé à plusieurs endroits, y compris dans des interviews de Barbet Schroeder, entre 50 et 60 millions de dollars. Pour vous donner une fourchette de comparaison, si on prend des comparaisons des films de l'époque, on avait donc Le Masque de Zorro était à 65, Le Soldat Ryan était à 65, X-Files Combattre le Futur était à 66, Blade était à 45, et si on veut prendre un exemple d'aujourd'hui, The Old Guard, le truc Netflix avec Charlize Theron, est à 70. Et moi, quand je vois tous les films que je viens de vous citer, enfin, ce sont des films qui ont beaucoup plus d'ampleur que l'enjeu.
Mais l'ampleur de l'enjeu, elle est alors déjà, encore une fois, je pense que le casting en fait a pris un petit peu, c'est-à-dire que en gros Andy Garcia, c'est pareil. Andy Garcia, c'était quoi? C'était l'acteur de Des Incorruptibles, Parrain 3, etc. Donc en fait, c'était quelqu'un qui avait, on va dire, une stature de leading man en fait.
Qui
n'a jamais vraiment convaincu en fait.
Trois ans avant, il faisait
jamais devenu une vraie star.
Trois ans avant, ils faisaient Des Dernières Heures à Denver, qui était un film avec un budget microscopique, donc il a pas pris beaucoup pour le faire.
Non, mais après, Andy Garcia, c'est un acteur en fait qui est aussi beaucoup plus entre guillemets. C'est-à-dire, j'ai pas l'impression qu'il ait vraiment toujours cherché son star power à part pour pouvoir tourner ses propres films, on va dire. C'est-à-dire que Andy Garcia, ce n'est pas ce que c'est, mais je pense qu'Andy Garcia, dans l'esprit des gens, et lui en tout cas, il aurait bien aimé avoir cette carrière-là. C'est une carrière à la De Niro, à la Pacino, c'est-à-dire vraiment quelqu'un qui peut en fait à la fois être un acteur de premier plan, mais qui peut aussi prendre des risques, etc., etc. Il est clairement pas cette stature, hein. Même si c'est moi un acteur que j'aime bien, hein, en soi, hein, c'est pas quelqu'un que tu vois, je trouve plutôt sympathique. Mais
oui, bon, on en a la preuve dans l'enjeu où il se fait. Enfin, globalement, il est dans un rôle beaucoup plus ingrat. Il faut dire aussi que
c'est
que
très Michael difficile Keaton à jouer, je pense, un rôle comme l'enjeu, parce que c'est un rôle totalement, pour le coup, monocorde. C'est-à-dire que vraiment, il y a un côté je dois sauver mon fils, donc en fait, c'est ma seule corde émotionnelle. Ouais. Et en gros, le mec qui fait le show, c'est littéralement Michael Keaton.
Il se fait bouffer, découper en rondelles et vampiriser par Michael Keaton, mais c'est normal parce que le rôle en offre plus.
Voilà, et en fait la problématique surtout de je pense de l'enjeu, moi j'ai tendance à considérer que le film est plus petit parce que en soi le projet était plus petit, c'est-à-dire je pense qu'il s'est fait bouffer par l'idée de faire un gros film de studio qui était un thriller avec des acteurs on va dire de premier plan, même si à ce moment là ça devenait des acteurs un petit peu de second plan, donc c'était vraiment le B-movie en fait on va dire de des années 80, de 97-98 pour Sony à l'époque quoi. Chez nous, gros carton, c'est discount, hein. Je pense qu'on peut le dire, tu vois. À un moment donné, je pense que vous pouviez tous l'acheter à 1€ sur ces discount. Voilà, dans une copie absolument exécrable en DVD, quoi. Chez Film Office ou un truc comme ça. Moi, je l'ai vu une fois à l'époque au cinéma. J'avais trouvé ça relativement sympathique.
Pareil.
Je l'ai revu peut-être une fois en vidéo, mais encore une fois, en le revoyant pour cet épisode, je me suis dit, j'ai pas l'impression de l'avoir revu parce que vraiment, en fait, je me rappelais, en fait, de la plupart des trucs qui se passaient. au fur et à mesure, ça avançait. Mmh. Mais en vrai, je me rappelais plus vraiment exactement global, quoi. Et du coup, je trouve le truc avec ce film-là, c'est que, ouais, c'est une série B, mais c'est une série B comme dans les années 50, en fait. C'est-à-dire, les années 50-60, c'était vraiment genre, il y a un côté film à papa, moi, quand je regarde ce film.
Oui, absolument. Il y a un côté film à papa, et il y a un côté, qui est en général un côté qu'on aime bien tous les deux, qui est le côté direct au but. Mmh. Je prends pas des circonvolutions de tous les côtés. Mmh. J'ai mon argument et je m'en sers jusqu'au bout. Qui est plutôt sympathique et qui est plutôt agréable en soi. Hein. C'est toujours plaisant de voir un film qui ne cherche pas à avoir 12 millions de sous-intrigues et qui dure pas 4 heures. Il dure à peu près 1h40, hein, quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que moi j'ai été très surpris, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, et j'ai été très surpris par le scope du film. C'est vraiment, c'est tout petit.
C'est tout petit parce que, alors donc, dérouler le récit. Hein. En gros, t'as cette proposition qui est faite au personnage de Michael Keaton.
Peter McCabe,
McCabe, appelons-le McCabe tout court, quoi, tu vois, ça claque. À qui on dit, voilà, en fait, t'es le seul à avoir une moelle osseuse qui pourrait convenir à mon fils, tu vois. Ça prend, allez, 10 minutes dans le film, tu vois, et ensuite t'as toute l'idée de le convoyer. T'as tout le moment où lui-même, en fait, si tu veux, décide en fait qu'il fait tout ça pour s'évader. Donc en fait, tu
vois sa préparation entre guillemets.
Sa préparation, il se fait péter un doigt, il se colle une espèce de truc entre les ongles.
Une pierre de briquet entre les ongles pour pouvoir cramer les trucs.
Foutre le feu, tu vois. Enfin, etc., etc. Il se casse le pouce pour pouvoir en fait le passer à travers les menottes. Voilà. Enfin, c'est tout un truc comme ça. T'as l'opération. L'opération qui se déroule pas, en fait, si tu veux, puisque justement il s'évade.
Dans sa préparation, il a prévu de prendre un excitant, ce qui fait qu'il ne réagit pas à l'anesthésie.
Voilà, c'est ça.
Trop intelligent.
Voilà. Et donc, en fait, t'as tout un tas de trucs comme ça. Et ça, mine de rien, bah, tu déroules le truc et en fait, tu te dis, putain, il y a déjà 35 minutes, 40 minutes, ouais, en fait, qui sont mis en place. Et ensuite, bah, tu vois, si tu veux, t'as d'un seul coup le mec qui s'évade. Et le gros de ce qui se passe, c'est une chasse à l'homme, mais dans
l'hôpital.
Dans l'hôpital.
L'hôpital qui est séparé en deux ailes. Qui se rejoignent par une passerelle.
Voilà. Parce que film d'action des années 90 oblige, va exploser.
De toute façon, en plus, j'ai l'impression que t'as peut-être pas la moitié, mais t'as bien 20 minutes de film qui se déroule sur cette passerelle, quoi.
Ouais, t'exagères. Mais en tout cas, il y a un plan des années 90, typique des années 90, où t'as une explosion avec un hélico devant. Comme dans Terminator 2, comme dans Au revoir à jamais, comme dans, tu vois, tous ces films, en fait, où dès que t'as une explosion à multicaméra, si t'as un hélico dans l'histoire, il faut qu'il y ait un plan avec l'hélico qui est face à l'explosion.
C'est beau, les plaisirs simples. En sachant donc que le film est supposé se dérouler à San Francisco, ils ont tourné à San Francisco très très peu, puisque l'essentiel du film a été tourné à Pittsburgh, et que cet hôpital n'existe pas. Donc en fait, c'est une reconstitution en studio où évidemment ils ont fait quelques étages et essentiellement la passerelle en décor extérieur, mais pourtant à l'intérieur. Et ensuite, les effets spéciaux ont été assurés par une compagnie qui s'appelle Boss Film. Et c'est on les cite parce qu'en fait, c'est leur tout dernier film. Ouais. Ils ont fermé suite à ça, parce que déjà, les effets spéciaux, en 1997, ils n'y arrivaient pas toujours. Pendant que ILM et Digital Domain étaient les rois du monde, Boss Film, qui est une société qu'on connaît tous, hein, quand on a grandi dans les années 90, parce que c'est... c'est The Abyss, Starship Troopers, SOS Phantom, puis c'est des gens comme... Richard Englund ou
John Bruno. C'était sa société, hein. Ouais. C'était sa société, hein. Die Hard.
Donc, ils étaient pas forcément, quoi, tu vois, ils ont travaillé sur Starship Troopers, c'était pas le studio d'effets spéciaux.
Non, comme t'avais beaucoup de studio lead et puis t'avais...
Bah, comme aujourd'hui, en fait, hein, où ouais, quand tu déroules ton générique, t'as toujours ton Moving Picture Company MPC qui est dans les premiers, puis ensuite t'as 350...
Ouais, mais t'as notamment, bah, justement, puisqu'on parlait de l'explosion de ce pont, en fait, t'as notamment une espèce de transparence à un moment donné avec le pont qui tombe et tout ça, qui est vu du dessus, t'as des trucs comme ça, en fait, donc...
Dans l'ensemble, les effets spéciaux sont plutôt pas dégueulasses, sauf une transparence infecte à un moment où il traverse justement le... où c'est Marcia Gay Harden, donc qui joue le rôle de l'infirmière, et Andy Garcia qui traverse le truc, où tu vois le fond vert à peu près à 200 km. Mmh. Mais sinon, les effets spéciaux se tiennent plutôt bien la route, même 20 ans après. 25 ans.
Ouais.
Bon, le temps passe vite.
Oui. Donc oui, en fait, le truc, c'est qu'effectivement, il y a un espèce de côté en huis clos qui fait que voilà, le film, en fait, se veut, ça a jamais été un film qui s'est, enfin, je pense pas qu'en VM sur le papier, en fait, c'est un film qui se soit considéré comme quelque chose de très gros, en fait. C'est, je pense, c'est le simple fait que le studio se soit dit, ah ben, on a pu attacher un ou deux comédiens d'envergure là-dedans, bah bon, allons-y, on va banquer là-dessus, quoi.
Ouais, mais t'as l'impression effectivement qu'ils ont gonflé le film. Tu sais, il y a cette anecdote célèbre à l'époque où Nolan a récupéré Batman Begins. Il a présenté ce qu'il voulait faire à Warner et Warner l'a regardé, lui a dit mais Chris, c'est pas assez gros. Enfin, tu fais Batman, quoi. Tu vas avoir 165 millions de budget, faut qu'il y ait des explosions, faut que ça pète. Et t'as un peu l'impression que c'est le même truc, là. C'est-à-dire que t'as des gens qui sont arrivés avec un petit film ouvragé, et on leur a dit, non, mais attends, on va te foutre 60 millions, t'as des stars, quand même, quoi.
Mais bon, après, en tout cas, voilà, le truc, si tu veux, c'est que le film est fait avec métier.
Oui.
On va dire, voilà. Les plaisirs, ils sont... Enfin, moi, je pense que tu sens que, par exemple, tu vois, il y a quand même une scène entre comment il s'appelle je me faisais la réflexion en regardant le film. T'as une scène entre Michael Keaton et tu l'as cité, Marcia Gay Harden. Et en fait, le truc, c'est qu'il suggère un viol.
Mm-hmm.
Sauf que, en fait, tu sais très bien, parce que c'est Michael Keaton et qu'en fait, il a été choisi pour rendre le personnage aussi charismatique et sympathique, tu vois, que, en tout cas, à cette époque-là, on pouvait pas aller aussi loin. C'est-à-dire qu'il aurait jamais, en fait, comment dire, violé ce personnage-là. Il aurait jamais, même s'il le suggère, c'est là où tu sens que le studio fait non. Michael Keaton, en fait, dans notre film, c'est pas un violeur, quoi. Même si c'est un mec qui est méchant, il faut qu'il reste sympathique, charismatique, qu'il éclate un peu les gens.
Oui, parce que c'est un de ses rôles de méchant, mais globalement, t'es quand même autant avec lui qu'avec Andy Garcia.
On s'en rend pas forcément compte, parce que le truc, c'est qu'il l'a quand même fait relativement régulièrement, hein, ça, mine de rien, Michael Keaton, hein, de jouer des rôles un peu borderline comme ça, mm-hmm. tu vois. C'est-à-dire, bon, borderline, j'exagère un peu avec ce personnage-là, c'est-à-dire que, si ce n'est pour les renvois à des méchants charismatiques comme je disais, en fait, Hannibal Lecter, ou voilà, tu vois, ça va pas très très loin, quoi. Et le truc, c'est que on le voyait comme un héros parce qu'à cause de Batman. Mais en gros, il a fait, je sais pas, Fenêtre sur Pacifique, pour citer un grand classique, quoi. Mais face au genre de truc, c'est celui qui me vient en tête. Il y a l'enjeu, évidemment, voilà. Donc c'est quelque chose qu'il a fait quand même, mine de rien, assez régulièrement. Puis lui, ça l'éclate. Beetlejuice, c'est censé être un méchant, hein, quand tu réfléchis, quoi. Et d'ailleurs, je dis Beetlejuice, mais ouais, c'est un peu. Il y a des moments où t'as l'impression que c'est un peu Beetlejuice sans le maquillage, le personnage, ah bah, quoi.
Globalement,
c'est pour qui le gros goûter.
C'est un Michael Keaton show, quoi. C'est-à-dire que lui s'éclate totalement. Et si vous appréciez l'acteur, il y a quand même de grandes chances que vous preniez du plaisir à le voir.
Jusque dans le dernier plan du film, d'ailleurs. En fait, le dernier truc qui est... Bon, c'est pas un spoiler, on s'en fout, quoi, tu vois. Et je veux dire, mais... Enfin, en tout cas, disons que c'est un spoiler, puisque c'est le dernier plan du film, si vous voulez, quoi. Mais qui est vraiment un truc de série B. C'est-à-dire, en gros, la greffe est faite. Ils ont réussi à l'attraper, la greffe est faite, tu vois. Il est dans son lit. Et en fait, il commence à poser des questions, aux personnes... Enfin, à un garde qui est là et tout. Et tu sens qu'en fait... L'idée, c'est de jouer sur l'idée que peut-être Michael Keaton, son personnage, a une espèce de rédemption. Et tu parles, en fait, le dernier plan, c'est il pique le flingue du mec et il le braque et il lui dit que t'as une bagnole, quoi. Quel est ton type de bagnole? Tu comprends que, potentiellement, non seulement on ouvre sur une suite, mais fondamentalement, c'est pas grave s'il y en a pas une, parce que c'est vraiment une fin ouverte.
C'est une fin ouverte. C'est pas une fin cliffhanger, c'est plus une fin ouverte. Et puis t'as aussi ce moment, enfin, moi, où que je trouve. Déjà au Cinoche en 98, tu disais quand même, la Michael, calme-toi un peu. Ou t'as des chiens qui lui aboient dessus, puis il fait.
Ah, ouais,
t'as des chiens, c'est génial, qui partent dans le sens parce qu'ils ont peur de Michael Keaton.
Voilà, c'est n'importe quoi. Ouais, c'est Beetlejuice. Mais du coup, c'est une manière de dire que le film, tu dis qu'on est autant du côté de. Alors, on est par défaut dans le scénario, on est du côté de Andy Garcia.
Oui.
Mais je pense que 95% des spectateurs, ils sont du côté de Michael Keaton dans ce film, en fait.
Bah parce qu'il envoie tellement de charisme. Enfin, moi, je trouve que c'est un type qui est très, très charismatique.
Ouais.
Et comme on l'a dit, le rôle d'en face, c'est un rôle très ingrat. Fondamentalement, le héros devrait être Andy Garcia, parce que c'est celui qui est pur, c'est celui qui est noble, c'est lui le chevalier blanc. Mais en fait, bah, souvent, on aime bien les bad guys, quand même. Et en plus, c'est vrai qu'il fait un tel show.
Et du coup, en fait, ce que je veux dire par rapport à ça, et c'est là où on rejoint un peu Barbet Schroeder dans la logique des choses, si tu veux, c'est que, en gros, parce que Barbet Schroeder, c'est quelqu'un qui a étudié Hitchcock, c'est pour ça qu'il s'intéresse aussi à ce genre de film, hein, Samuel Fuller, des mecs comme ça, tu vois. Et donc, du coup, c'est un cinéaste qui est plus discret aujourd'hui, on va dire, bon, c'est un vieux monsieur maintenant, mais oui. En fait, qui a quand même une cinéphilie. Et en gros, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que je pense que même si tu sens que pour lui, c'est un gros film de studio, et ça serait intéressant de le voir, en fait, parler de ça aujourd'hui, d'avoir un peu de recul, de se dire, de voir qu'est-ce qu'il en dirait, en fait, de ce film-là, parce que je pense qu'il serait le premier à reconnaître que c'est pas son meilleur film. Même si tu sens que ça pouvait être un truc de carrière pour lui, tu comprends les points sur lesquels lui il a pu s'attacher en fait pour se dire voilà, et en fait le trip méchant à la Hitchcock, le trip tu vois série B à l'ancienne, etc., etc., c'est typiquement en fait je pense les points d'accroche qui auraient pu l'intéresser dans le film, quoi.
Oui, puis surtout, enfin je sais pas si tu seras d'accord, mais moi je préciserais quand même que toi comme moi, en revoyant le film, on a fait ouais bon c'est pas génial, mais c'est pas honteux, hein.
Non après c'est bon, ça abuse de certains effets. Moi, je trouve typiquement des années 90, hein, t'as toute une scène au début qui est totalement Dutch Angle, tu vois.
Oui, en caméra déboulée, mais...
Attention, il se passe un truc, attention, bah, suspense.
En même temps, c'est vrai que c'est bizarre de filmer une scène entièrement en déboulée, mais en même temps, ça permet aussi d'avoir justement les crédits qui sont intégrés, entre guillemets, à la scène de façon assez originale.
Comme dans Ricochet.
on en est au stade où on cite du Russell Mulcahy dans le texte.
Écoute, c'est parce que c'était un truc encore une fois des années 90, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de comment dire, surtout ce qui était des thrillers, des trucs comme ça, etc., etc. Tu vois, donc voilà. Mais c'est vrai que quand bon, toi et moi qui parlons d'un film comme ça, moi je pense qu'on a choisi ce film-là parce que le versant action est un peu plus prononcé. Mais finalement, c'est un film qui s'inscrit dans tous ces thrillers des années 90, en fait, qui encore une fois, est un truc qui n'existe plus aujourd'hui. Enfin, moi, je sais pas toi, mais je suis allé voir en salle, alors c'était quelques années auparavant, mais Sans chaud pour meurtre de sang froid.
Bien sûr.
Trahi, avec Goldie Hawn, tu vois.
Oula, ouais, je l'ai vu, mais je n'ai aucun souvenir sur la chose, j'ai jamais
non
vu.
Non plus, mais c'est pas grave. Dead Again, tu vois, de ouais. Kenneth Branagh, qui était un thriller, pareil, Hitchcockien. Enfin voilà, et tous ces films en fait ne sortent plus, ils se font plus du tout. Et ça, c'était un peu genre, on fait ça, mais tu sens qu'il y a quelques notes de studio pour dire bon, ouais, ça serait bien de faire péter le pont là. Et puis là, ça serait bien qu'il y ait à la fin là, il y ait une cascade en parce que t'as ça quand même en fait. À un moment donné, tu regardes ce film et d'un seul coup, t'as un truc sur l'autoroute avec un camion qui part en couille, un cascadeur à moto qui passe en dessous, etc. Avec ça, tu fais mais qu'est-ce que ça fout dans ce film à part des notes de studio ultra prononcées et surtout. C'est tellement rajouté d'une manière étrange que la scène est terminée. Andy Garcia, il est en plein milieu du truc, etc., etc. Cut. Le plan d'après, il est en train de rouler tranquille en écoutant la musique. Et tu te dis, mais en fait, vous saviez pas comment l'intégrer, ce truc. C'est une note de studio qui a dit, ouais, les gars, on a trop d'argent. faut foutre le bordel, là, sur l'autoroute, quoi. Donc, c'est vraiment, en fait, c'est l'excroissance de tous ces thrillers, de studio. Tous ces renvois à Hitchcock, tous ces trucs, etc., etc., mais poussés, à l'extrême de bon, on a de la thune, on va faire sauter un pont, on va faire sauter un truc, on va foutre des cascades partout. Et voilà, donc c'est vrai que c'est.
Mais voilà, tu vois, c'est les films que t'as cités. Je vais pas parler de leur qualité, mais je vais plutôt te dire que ce sont des films entre guillemets prestigieux. Donc c'est gros budget, belle lumière, acteurs fabuleux.
Mais ça
l'était
aussi, je pense, si ce n'est que ça s'est planté.
Ça s'est planté. Mais quand l'enjeu est sorti, c'était pas, il y a pas. Alors on était dans un autre monde où les films mettaient 6 mois à arriver en France. Mm-hmm. Donc on savait déjà que ça s'était planté aux États-Unis, mais c'était pas une énorme sortie en France. C'était pas une énorme sortie aux États-Unis. Il y avait pas. C'était pas un truc.
Aux États-Unis, je pense que c'était un peu plus. Ouais.
C'était pas. J'ai pas l'idée honnêtement à combien il y avait de salles à l'époque.
Oui.
Si on faisait un comparatif aujourd'hui, c'est pas une sortie à 2000 salles, quoi. C'est plutôt une sortie entre 1000 et 1500. Ce qui en fait un film moyen. Là où le Sang chaud pour meurtre de sang froid, c'était un véhicule, quoi.
Mais là, t'avais encore une fois, je pense, des vraies stars. C'est-à-dire, t'avais Richard Gere qui venait de sortir de. Comment ça s'appelle
Voilà. Les années 90, parfois, c'était bien,
Pretty
mais
Woman.
On avait aussi des moments où on disait que Richard Gere, c'était une vraie star, avec Michael Keaton, non.
Mais,
ça va
mais c'est la réalité de la situation. Oui. Hein, c'est-à-dire que, en fait, Batman avait cartonné parce que c'était Batman. Donc Michael Keaton en avait profité. Pretty Woman avait cartonné parce que Richard Gere aussi. C'est-à-dire et que en fait, si tu veux, en gros, c'est la distinction avec laquelle les studios fonctionnent, hein, vraiment. C'est-à-dire, il y a un truc de dire, on va te payer cher pour Batman Returns, par exemple, parce que c'était toi qui étais dans le premier, parce que machin, etc. On a fait un pari sur toi. Mais alors que l'autre, en fait, c'était le star power, tu vois. C'était le star power, Richard Gere en avait un. Mais me demande pas pourquoi, mais il en avait un.
Bah parce qu'il est bel homme, ça a joué, hein.
Il y en a d'autres, mais en fait ce que je veux dire c'est qu'il y en a d'autres qui sont bel hommes et qui savent jouer, mais c'est ça que je veux dire, parce que bon, Richard Gere, voilà quoi.
Écoute, je trouve honnêtement que c'est en termes de porte-manteau, j'en ai jamais vu qui joue aussi bien,
voilà, tu vois. Donc du coup, en fait, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que en fait t'avais un vrai gros film de série A, on va dire, si tu veux, parce que t'avais Richard Gere, t'avais, comment elle s'appelle, Kim Basinger aussi, qui sortait de Batman, tout ça, etc., etc. Alors que là, bon, effectivement, on avait deux stars un peu fanées, quoi, c'est-à-dire de vraiment
les deux stars qui ont connu après un retour. Andy Garcia, c'était la série des Ocean où il est revenu revenu un petit peu sur le devant, un petit peu.
C'est pas le personnage principal.
C'est pas, bon, en même temps, c'est difficile de trouver un personnage principal quand ils sont 25, quoi. Mais oui, c'était quand même l'antagoniste. Du premier, et c'était l'antagoniste sympa du troisième. Et t'avais Michael Keaton qui lui fait un retour depuis Birdman en 2014, où maintenant il est de nouveau partout, le bonhomme.
Ouais, mais moi, enfin, tu vois, là, ça fait un peu mal au cul de le voir refaire le rôle de Batman dans Flash, quoi. Tu vois, enfin, moi, je t'avoue que j'ai pas envie de voir ça. Je l'ai vu récemment, en fait, en interviewé. Je sais plus dans quel talk show, et en fait il s'est fait lifter un peu et tout, ça fait chier.
Ouais, ça fait
ça fait chier parce que c'est un mec qui est pas un bel homme en fait, forcément, à proprement parler.
Il ressemble à Julien Lepers, le mec.
C'est vrai. On avait évité la comparaison jusque là, bon, on est en plein dedans, bah, c'est merci Julien Charpentier. Mais par contre, en fait, ce que je veux dire, c'est que si tu veux, c'était un mec qui avait sa gueule, quoi. Moi, je comprends, en fait, si tu veux, que le mec, il puisse plaire, on va dire, par son charisme, par son machin, etc. etc.
Mais c'est une gueule, une vraie.
Voilà, c'est ça. Et en fait, du coup, il avait ce truc qui était un petit peu atypique, il perdait un peu ses cheveux, enfin, etc., etc. Il y avait ce truc-là. Et là, le voir se faire tirer, lifter la tronche, comme s'il était, je sais pas, tu vois, enfin, comme si c'était ça qui était important, en fait, pour rejouer le rôle de Batman, ça fait un peu mal au cul. Donc voilà, et puis ça fait un peu mal au cul encore une fois de voir tous ces mecs qui se basent sur leur gloire passée, quoi, tu vois. Birdman, au moins il y avait une vraie réflexion autour de ça, quoi, c'est ça que je veux dire, tu vois. Voilà, donc toujours est-il que bon, est-ce qu'on a fait le tour en... Bon, on peut se réserver un petit peu sur Barbet Schroeder, sur d'autres films en fait, parce qu'on reviendra probablement sur un Kiss of Death ou un truc comme ça un jour.
Ouais, ce serait bien, on a eu deux ans que c'est un film très oublié et très disparu, parce qu'il est introuvable aujourd'hui.
Et qui était un vrai bon film.
Et qui
un
existe,
vrai bon remake.
Qui existe dans une édition DVD difficile à trouver avec un master dégueulasse. Mm-hmm. Donc oui, il y a peut-être des choses à faire avec Barbet Schroeder. Sur Michael Keaton, on en reparlera éventuellement. Sur l'enjeu, voilà, mis à part vous dire que c'est un petit film sympatoche, qui n'est pas un grand film, qui n'est pas un mauvais film, qui se laisse voir. Et que si vous voulez le voir aujourd'hui, bah, y a deux options. Il est en tout cas au moment de l'enregistrement, c'est pas sûr que ce sera le cas du moment de la diffusion, il est disponible sur Netflix.
C'est vrai.
Donc c'est une vraie opportunité de le voir. Et,
en HD et tout
En HD, me semble-t-il, oui. Il y a un Blu-ray qui vient de sortir en Espagne, qui s'appelle Medidas Desperadas, parce que je parle trop bien espagnol. En fait, c'est une copie, bon, pour le coup, de très bonne qualité. Avec une version française et des sous-titres français. Donc, si c'est un film que vous avez envie de revoir, pour l'instant, il est pas cher en espagnol. Sinon, a priori, sur Netflix, vous devriez pouvoir le trouver.
Voilà. Donc, petite série B, ma foi, sympathique.
Fort sympathique. Ouais. Allons jusque-là.
Pourquoi je parle comme Belmar, j'en sais rien. Comme Pierre Belmar, mais voilà, en tout cas, c'est ça. Merci, Julien Charpentier.
Bah, merci, Stéphane.
Merci à la technique. Et merci à nos auditeurs qui nous écoutent. Pour nous soutenir, j'ai envie de dire, il y a une adresse. En fait, il y en a deux, mais si vous cherchez bien, vous en trouvez une déjà. La première, je vous la donne, c'est Patreon. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux habituels. Et puis, vous savez qu'on fait peut-être... Enfin, vous savez, normalement, vous savez qu'on fait des vidéos aussi, Stéroïdes. Là, récemment, Armageddon, de Michael Bay, qui est un autre beau film des années 90, sur lequel tu n'es pas venu parler, Julien Charpentier. Je ne t'ai pas invité en même temps, mais c'est vrai.
Ah ouais, tu m'as pas invité.
On l'a pas fait. Mais enfin, si, on a fait un épisode sur Michael Bay, un podcast, quoi. On prépare Rocky. Enfin, on a fait Rocky. Peut-être que ça sera déjà diffusé. Enfin voilà. Donc on fait des vidéos. Et puis nous, on se retrouve, Julien, pour un autre film.
Au plaisir.
Voilà. À choisir. Merci à tous.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.